Le son, c'est bon, Mario? Parfait. Donc, ça nous fait toujours plaisir d'être là, de vous rendre visite en cette journée spéciale. C'est la fête de mon père aujourd'hui. Donc, si vous ne lui avez pas souhaité bonne fête, assurez-vous, là, il est en train de compter l'argent. Mais on ne va pas lui chanter bonne fête, vous pouvez lui dire. Donc, on est content d'être là, toute la famille. Ce matin, à Sainte-Foy, comme vous le savez, on fait une étude sur le livre de Colossiens, sur l'épître de Paul aux Colossiens. Ce matin, je vous amène un passage qui est dans la suite de ce livre-là qu'on achève chez nous. Je vous invite à tourner avec moi. C'est un passage très pratique qu'on va voir dans Colossiens 3, les versets 18. On va lire jusqu'au chapitre 4, verset 1. Donc, vous pouvez tourner avec moi et suivre sur l'écran, comme bon vous semble. On va faire la lecture du texte. Un instant. Colossiens 3, 18. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire au Seigneur, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et le temps qu'on va passer à étudier ce texte ce matin. Petite parenthèse avant de débuter. Vous avez vu les enfants. Je regarde Sébastien. Si vous leur demandez Colossiens 3.20, surtout Mégane, Arnaud, ils vont être gênés. Mais si vous demandez Colossiens 3.20, Colossiens 3.23, ils vont être capables de vous le réciter. C'est des versets qu'ils ont appris par cœur. Ce n'est pas pour vanter mes enfants. C'est un encouragement. Les enfants sont capables de le faire. Puis j'encourage les parents. Puis les adultes aussi, d'apprendre des versets par cœur. On le fait avec nos enfants. Puis ça nous force à l'apprendre aussi. Donc, c'est un bel exercice. Puis ça nous aide. Puis c'est bien d'avoir ces versets-là pour nous. Ici, tout le monde connaît l'expression « J'assume tirer la couverture de son bord ». Qui ne connaît pas cette expression-là? Logan ne connaît pas? C'est pas grave. Donc, je vais l'expliquer, évidemment. Chez nous, à Sainte-Foy, il y a beaucoup d'immigrants, puis il n'y avait pas tant de monde que ça qui la connaissait. Tirer la couverture ou tirer la couverte de son bord. Si je te dis ça, Mario, je ne te fais pas un compliment. Tu tires la couverte de ton bord, c'est pas un compliment. C'est un reproche, en fait, de dire ça. Puis l'expression, ce qu'elle veut dire, c'est s'approprier égoïstement les avantages, les profits ou le mérite d'une situation au détriment des autres. Cette expression désigne le fait de prendre plus que sa juste part, de se mettre en avant et d'agir de façon égoïste. Donc, évidemment, il y a un problème. Puis pourquoi c'est un problème d'agir comme ça? Parce que c'est égoïste, parce que c'est penser à soi, c'est penser à soi en premier. Puis on doit reconnaître que naturellement, on a toujours cette tension-là ou cette pensée-là de tirer un peu la couverture de notre bord ou se favoriser dans les façons d'agir ou d'interagir. Je prenais l'exemple de mes enfants. Si je leur donne la possibilité de choisir entre deux pointes de gâteau au fromage, quelle, une grande ou une petite, quelle pointe tu penses, pose la question à ma maman, qu'ils vont choisir? La petite, c'est la bonne réponse. C'était une question. La grand-maman connaît bien ses petits-enfants. Tu t'as pris une chance ou tu as voulu faire une blague? En fait, c'est la bonne réponse. Les enfants, ils n'aiment pas le gâteau fromage. Mais habituellement, les enfants, ils vont choisir la grosse part pour eux. Puis évidemment, on a même en tant qu'adulte, on a cette pensée-là, cette idée-là de le faire. Oscar Wilde mentionnait, l'égoïste n'est pas celui qui vit comme il lui plaît, c'est celui qui demande aux autres de vivre comme il lui plaît. Intéressant comme réflexion. Quand on est égoïste, c'est comme si on veut faire les choses d'une façon, puis on demande aux autres d'accepter notre pensée, puis de vivre comme nous, on a envie de vivre. Fait que, évidemment, il y a un problème avec cette pensée-là, cette idée-là. Puis dans le texte qu'on a lu ce matin, une expression qui revient souvent, constamment, c'est « dans le Seigneur ». Parce que c'est agréable au Seigneur, vous faites les choses dans le Seigneur. Il y a cette idée-là. Donc, on est, par la grâce de Dieu, on est sauvé par grâce, puis on est appelé à marcher différemment dans les versets. Puis là, on ne va pas revenir en arrière dans les versets qui précèdent le texte qu'on regarde ce matin. Il y a une pensée qui est mentionnée qui dit « vous étant dépouillé du vieil homme ». Donc, on est dépouillé de notre vieil homme, de notre ancienne nature et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Donc, si on devient des enfants de Dieu, on est revêtu d'un homme nouveau, ça devrait se manifester, ça devrait paraître dans notre comportement, dans nos relations avec les autres, dans la façon qu'on va gérer nos relations. À tous les niveaux. Puis c'est ce qu'on va voir ce matin. On va voir comment que la vie chrétienne devrait être ajustée en fonction de notre nouvel état en tant qu'enfant de Dieu, puis comment qu'on devrait avoir une attitude envers les autres. On va considérer différents aspects de la vie, différentes couvertures ou différentes couvertes. Si on reste avec le thème de ce matin, la couverture conjugale, donc les relations hommes-femmes, mari et épouse, la couverture familiale, les relations parents-enfants, la couverture professionnelle, donc au niveau du travail avec vos patrons, employés, puis on va voir évidemment des applications qui vont principalement être des rappels pour chacun d'entre nous en 2026. Donc, avant d'aller plus loin, prions pour remettre le temps entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, merci pour ce texte que tu places devant nous. Merci pour ta parole qui est si riche, Seigneur, puis on veut évidemment la lire, on veut l'apprécier, puis on veut que ça nous parle, ça ait un impact. Vie. Donc, on prie, on se place devant toi, Seigneur. Ouvre nos cœurs, rends-nous attentifs, puis permets que ce texte nous parle et change les choses en nous. On prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, premier point, la couverture conjugale. Je relis le verset 18 qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » Le mot « femme » ici, en anglais, c'est traduit dans toutes les versions. En anglais, c'est traduit par « wives », qui veut dire « épouse ». Donc, c'est évidemment, le texte ici ne s'applique pas aux femmes envers tous les hommes. Si vous avez cette pensée-là, vous êtes dans l'erreur. C'est vraiment une consigne qui est mentionnée aux épouses envers, on va le voir plus loin, leur mari. Puis, c'est mentionné « soumise à vos maris ». Donc, je suis conscient que le mot soumettre, c'est évidemment, je conseille que je marche un peu sur des œufs. Ce n'est pas nécessairement un thème qu'on aime à aborder. Quand on divise les textes, puis j'ai ces textes-là, je dis bon, il y a encore à traiter ce sujet-là délicat. Mais évidemment, la parole de Dieu en parle. Donc, ça demande d'être soumise à vos maris. Puis l'expression soumise ou être soumis, il y a certainement une notion d'autorité, une notion d'obéissance. Le mot est exprimé ailleurs dans le Nouveau Testament. Dans Luc 10, verset 17, les 70 disciples, ils reviennent vers le Seigneur Jésus avec joie en disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom ». Donc, les démons obéissent. Il y a une notion d'autorité ici. 1 Corinthiens 15, 27, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, donc il a tout soumis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis au Fils, il est évident que celui qui est soumis, toute chose est acceptée. Donc il y a une notion d'autorité envers une notion du mari envers la femme, puis une notion de soumission. Il y a vraiment cette notion d'obéissance-là qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter. Même si ça nous paraît un peu difficile, surtout dans la société d'aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Il n'y a pas de notion de supériorité. Je tiens à le mentionner, à être clair par rapport à ça. Dans Luc 10, verset 17, c'est dit « Puis il, le Seigneur Jésus, est descendu avec eux, avec ses parents pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. » Donc, le Seigneur Jésus, qui était évidemment supérieur à ses parents, qui était le Dieu tout-puissant, manifestant en chair, il était soumis à ses parents, il respectait l'ordre établi par Dieu. Donc, il n'y a pas une notion de supériorité, il ne faut pas avoir cette idée-là. Il y a une notion d'ordre, par exemple, c'est ce que le texte comprend, exige. C'est mentionné « soumise à son mari ». Donc, ce n'est pas soumise en général aux hommes, c'est vraiment soumise, la femme doit être soumise à avoir cette relation-là particulière avec son mari. Donc, ce n'est pas applicable en frères et sœurs. Mégane n'a pas de consigne particulière envers Arnaud, puis elle ne devrait pas en avoir. Ce n'est pas applicable dans vos relations professionnelles, ce n'est pas applicable dans vos relations amitié, c'est vraiment dans un lien, dans le lien de conjugal. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut l'appliquer, il faut le respecter. Comment ça l'implique? C'est quoi la dynamique d'être soumise à son mari? Il y a différentes choses qu'on pourrait dire. J'ai trouvé ce commentaire-là intéressant. Fondamentalement, Paul demande une attitude volontaire, donc une idée volontairement que la femme a cette attitude-là d'agir au sein du couple où une femme honore son mari, lui manifeste confiance et respect et converse avec lui pour les décisions majeures qui concernent le foyer. C'est reconnaître que le couple rassemble deux personnes de même rang, de même dignité, de même capacité, mais qui sont complémentaires, donc qui ont des rôles différents. Dans notre dynamique de couple, évidemment, j'espère que Jeanne n'est pas prise au dépourvu dans ce que je veux dire, mais ce que j'aime dans notre relation, c'est évidemment, j'aime quand Jeanne me fait confiance, me respecte mon opinion, respecte des décisions si j'en ai à faire, c'est là que je me sens valorisé dans mon rôle. C'est un peu cette idée-là qui doit être cherchée à être valorisée. C'est pas vraiment une idée nécessairement d'ordre, c'est vraiment une idée de dynamique puis les rôles qui sont complémentaires. Donc, j'espère que je suis clair dans ma manière d'exprimer les choses. Pourquoi? C'est mentionné comme il convient dans le Seigneur. Donc, il y a deux choses qu'il faut comprendre. C'est pourquoi il faut agir comme ça, pourquoi que les femmes doivent agir comme ça, parce que ça fait plaisir au Seigneur. C'est sa volonté. J'aimerais me dire que ça serait plus facile s'il n'y avait pas des versets comme ça dans la Bible, surtout avec la société d'aujourd'hui. Pourtant, ce que le texte dit, c'est que ça fait plaisir au Seigneur d'agir, que les femmes se conduisent de cette façon-là. Donc, il y a cette dynamique-là qu'il faut comprendre. Il y a l'idée aussi que le Seigneur aurait pu établir différents, revoir les choses, le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, mais il ne l'a pas fait. Donc, c'est vraiment sa volonté que ça soit comme ça. Donc, il faut l'accepter de cette façon-là. Deuxième point, maintenant, évidemment, il y a les femmes qui ont ce rôle-là. Les maris, en retour, comment ils doivent se comporter? Puis le texte nous dit, Marie, que chacun... Puis là, il y a un verbe qui est utilisé. On pourrait penser, quand je préparais le message, à différents mots qui auraient pu être utilisés pour expliquer la dynamique du mari. Est-ce que c'est Marie que chacun soumette sa femme? Évidemment, c'est pas applicable. Que chacun dirige ou soit leader ou inspire des mots positifs. Puis c'est pas ces mots-là que l'auteur, que Paul va utiliser ici. Il dit, Marie, que chacun aime sa femme. Donc, le commandement que Dieu donne au mari, c'est pas de s'assurer que la femme fait sa part ou fait bien son rôle selon ce qui est demandé, mais c'est d'aimer son épouse, d'aimer sa femme. Si on leur demandait quelle est leur principale responsabilité envers leur épouse, plusieurs maris répondraient, c'est être le chef de famille. Puis je réfléchissais encore à ça hier quand je révisais le message. J'ai souvent cette idée-là, c'est comme, j'ai un rôle, je veux diriger la famille, je veux travailler pour pourvoir aux besoins. On a cette mentalité-là qui est très présente. Or, Paul affirme que notre première responsabilité est d'aimer notre femme. C'est notre première responsabilité. Si vous êtes mari, comme ceux qui sont mariés ici, vous devriez réfléchir souvent à la manière dont vous pouvez mieux aimer votre épouse, mieux aimer votre femme à l'image de l'amour que Christ porte à l'Église. Donc, c'est l'objectif. C'est comment, moi, aujourd'hui, en me levant, comment je peux agir, quelles actions je peux poser aujourd'hui pour montrer à mon épouse que je l'aime. C'est ma première responsabilité. C'est ce que le texte nous demande de faire. Oui, on doit être des leaders de la famille, mais comment je peux aimer mon épouse? Et ne s'aigrisse pas contre elle. Qui ici, dans son langage de tous les jours, utilise le mot « aigrir » dans son vocabulaire? Je l'ai lu ce matin dans ma lecture quotidienne. Ah, ben, non, c'est pas un mot qu'on utilise souvent. T'sais, on a une sauce aigre-douce là, qu'on connaît. C'est pas un mot qu'on utilise souvent. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est aigre? Si on parle de nourriture qui devient aigre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait grimacer. Donc, c'est un peu l'opposé, puis c'est une belle définition, on va s'en tenir à ça, Denis. Merci. C'est une belle définition. Donc, l'attitude du mari envers la femme, si le mari aime sa femme, il ne va pas grimacer en lui parlant. Il ne va pas avoir une attitude irritable ou être irrité ou la regarder avec une mauvaise attitude. C'est évidemment pas comme ça qu'il va agir envers elle. S'il aime sa femme, il ne va pas s'aigrir contre elle. Faut prendre soin. Il faut que les maris sont appelés à prendre soin de leur femme, à s'en occuper. Un texte dans le commentaire biblique du chercheur, un commentaire que j'aime bien, mentionne « Les femmes, comme des fleurs tendres et sensibles, peuvent se faner lorsqu'elles sont soumises à une autorité écrasante, mais fleurissent lorsqu'elles sont entourées de tendresse et de bons soins. » C'est bien dit, hein? Je vois des épouses qui sourient. Donc, évidemment, puis c'est vrai, les femmes, faut prendre soin, les hommes ont ce devoir-là, les maris, ce devoir-là de prendre soin, de vouloir faire en sorte que leur épouse s'épanouisse, puis grandisse, puis qu'elle soit, comme des fleurs qui fleurissent, qui soient belles, bien, il faut que les maris, par leur façon d'agir, fassent en sorte que ça arrive. Donc, première couverture. Deuxième couverture, la couverture familiale. Donc là, on a presque pas d'enfants ici, ou bien d'enfants mineurs, mais il y a une dynamique entre la relation entre parents et enfants. Premièrement, le texte aux enfants, ça mentionne, enfants, verset 20, « Obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Par enfants, ici, on parle d'enfants qui ont un âge de raison. Mes enfants sont qualifiés dans cette dynamique-là. Puis l'idée, c'est de obéir en toutes choses. C'est quand même assez exigeant. C'est pas obéissez quand vos parents sont raisonnables, obéissez quand ça fait votre affaire, obéissez quand vous avez quelque chose à demander, puis que vous pensez que ça vous aiderait d'avoir une bonne attitude. C'est pas comme ça que le texte le dit, c'est d'obéir en toutes choses, toutes circonstances. Donc, c'est d'avoir cette attitude-là, de dire, OK, le père est en position d'autorité, donc je dois, ou le père ou les parents sont en position d'autorité, donc je dois avoir une bonne attitude et obéir aux consignes. Pourquoi c'est important? La première relation que construit un jeune, c'est celle qui l'unit à ses parents. C'est vrai, les relations, évidemment, les premières personnes qui sont développées, c'est avec les parents. Elle est fondamentale dans le sens où elle pose les fondements de toute une vie. Lorsque le cadre de la relation parent-enfant est posé et bien établi, alors beaucoup d'autres relations peuvent se développer correctement. Donc, si la relation parent-enfant n'est pas bonne, évidemment, les autres relations dans la vie de tous les jours vont être affectées par cette mauvaise relation-là. Donc, c'est important de bien comprendre cette dynamique-là. Donc, les enfants doivent obéir aux parents, car, encore une fois, la même idée, ça fait plaisir au Seigneur. C'est agréable à sa pensée, c'est agréable à son plan, c'est selon l'ordre qu'il a établi. C'est pas arrivé au Nouveau Testament, c'est arrivé dès le début, dès les 10 commandements, c'est mentionné. Exode 20, 12, ça dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, évidemment, un commandement donné au peuple d'Israël d'honorer le père et la mère. Puis Seigneur Jésus va reprendre ça dans Matthieu 15, versets 5 et 6. « Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. » C'est une manière de dire « Je suis pas obligé de t'obéir parce que j'ai de quoi être plus noble à faire. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Il y en a qui disaient ça au temps du Seigneur Jésus. « Vous annulez ainsi la parole au profit de votre tradition. » Donc, le Seigneur Jésus condamne ceux qui essayent de trouver des voies de contournement à obéir là, aux parents. Donc, évidemment, c'est le plan de Dieu depuis le début, puis ça n'a pas changé autant où la lettre a été écrite. Ça n'a pas changé aujourd'hui non plus. C'est encore ce que Dieu veut. C'est encore agréable pour lui aujourd'hui. Verset 21. « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Le mot ici utilisé, c'est « père ». C'est évidemment, ce que je dois dire s'adresse aux parents, de façon générale, mais particulièrement aux pères. Les pères ont un rôle à jouer, puis c'est moins vrai aujourd'hui. Il fut une époque où on disait que les pères avaient un rôle mineur dans l'éducation des enfants, mais les pères ont un rôle à jouer. Puis ici, Paul s'adresse particulièrement aux pères qui ont quelque chose à faire. Évidemment, les principes s'adressent aux deux. Encore une fois, c'est la même chose que j'ai utilisé tantôt. Père, il y a plein de mots qui pourraient être utilisés, de verbes qui pourraient être utilisés. J'ai utilisé les mêmes. Est-ce que c'est soumettez vos enfants, dirigez vos enfants, soyez des bons leaders, inspirez. Non, c'est vraiment la même idée d'avoir une attitude aimante envers les enfants. N'irritez pas vos enfants. On peut être irritable de différentes façons, mais l'idée principale ici, c'est à être irritable en étant trop difficile, trop exigeant, trop autoritaire envers les enfants. Donc, Paul demande aux gens de ne pas avoir cette attitude-là. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se décourager. Si vous êtes constamment sur leur dos, constamment insatisfait, constamment en train d'être pointilleux sur différentes choses, ça va être lourd, ça va être difficile, puis ça va nuire à leur développement. Une dureté paternelle excessive peut refroidir les affections des enfants et les pousser à chercher dans le monde le bonheur qu'ils ne trouvent pas dans leur famille. C'est intéressant comme réflexion. Si on est trop dur, trop difficile, les enfants disent « je vais aller voir trouver une sécurité, un bonheur ailleurs ». Il faut que le nid familial soit un endroit positif où ce que les enfants ont envie d'être. Au contraire, le foyer chrétien doit être un lieu de refuge où les enfants, grandissant dans la faiblesse, trouvent la protection contre les dangers et l'atmosphère nocive du monde. Donc, les enfants doivent chercher réconfort dans le foyer familial, dans le foyer chrétien. Donc, si l'attitude à l'intérieur de la maison n'est pas positive, les enfants vont vouloir partir, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut les garder le plus longtemps possible. Non, pas nécessairement vrai, là, mais on veut qu'ils soient bien à la maison. Ici, je fais une petite parenthèse. On pourrait dire, le texte dit de ne pas irriter les enfants, donc je vais être leur ami. Je vais toujours leur dire oui. Je vais toujours me plier à leur cap volonté pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils sentent que je les aime. Évidemment, c'est pas bien de penser comme ça. Un texte parallèle, Éphésiens 6, le verset 4, ça dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. » Donc, il y a une responsabilité de les corriger, une façon d'hériter. Puis, des fois, nos enfants, on dirait qu'ils veulent qu'on les… Nos jeunes enfants, on dirait qu'ils veulent qu'on les punisse. T'sais, des fois, ils ont besoin de sentir ce cadre-là. Fait que c'est intéressant de penser à ça. Nos enfants, on doit les corriger, on doit leur montrer. Puis, si on ne le fait pas, on n'accomplit pas notre rôle. Un commentaire disait, si votre enfant est roi à 2 ans, il sera dictateur en tant qu'adolescent. Donc, on doit, dès leur jeune âge, je regarde Sébastien, évidemment, de s'assurer qu'on les corrige, qu'on les instruit, puis qu'on veut les élever dans la voie du Seigneur. Donc, c'est important de le faire. Troisième point, la couverture professionnelle. Verset 22, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. » Le texte s'adresse à des serviteurs. Qu'est-ce qu'on entend au moment de la lettre? C'est qui ces serviteurs-là? C'est des employés? T'es certain, Denis? Oui, c'est des esclaves. Il s'adresse littéralement à des esclaves ici. Il s'adresse à des gens qui n'ont pas de droit, qui sont des esclaves, puis il leur demande d'agir. Qui ici dans son CV a le mot « j'ai été esclave pendant 2 ans » Personne, évidemment, personne chez nous l'a été. Puis autant des apôtres, il y avait un bon pourcentage. J'ai lu différents commentaires, là, différents textes. Puis tu sais, on parle, mettons, de façon conservatrice, là, de 20 à 30 % des gens qui étaient des esclaves. Donc, il n'y avait pas de propriété propre, il n'y avait pas de droit à leur maître, ils décidaient tout ce qu'ils faisaient. Puis Paul s'adresse à des gens comme ça, qui étaient esclaves, puis qu'est-ce qu'il leur dit? Évidemment, il n'y avait pas les droits du travail là, qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas ces réalités-là. Il leur dit quoi? Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Donc, il leur demande d'avoir une attitude d'obéissance. Le maître, même si vous pouvez penser que le rôle dans lequel vous êtes est injuste, puis ça s'applique évidemment dans le monde du travail aujourd'hui, même si on pense que nos fonctions, les choses qu'on s'est demandé à faire, c'est injuste, on est mieux que ça, on pourrait faire tellement des plus grandes choses, on pourrait avoir des plus belles responsabilités ou des tâches plus excitantes, plus motivantes. Malgré tout ça, on doit obéir en toutes choses à vos maîtres. Puis l'apôtre, il pense un peu comment on peut être tordu, non pas seulement pour plaire, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, donc comme si le maître me regarde, puis là, je vais montrer que je suis motivé parce qu'il me voit, il a les regards sur moi, il va voir que je suis capable puis je fais de mon mieux, mais même s'il n'est pas là, même s'il ne me regarde pas, avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur, donc même si le maître se retourne ou s'en va, je continue à faire mon travail de mon mieux, parce que je me dis, je travaille pas pour cet homme-là, je travaille mon rôle, je le fais pour le Seigneur. Je travaille pour le Seigneur, on doit faire les choses pour le Seigneur, puis le texte nous le dit clairement, on va le voir dans une seconde. Donc, on continue à faire de notre mieux, même si notre maître ne le voit pas, puis ne le remarquera pas. Puis là, ici, il va une idée générale qui s'applique à tout le monde. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, toutes les choses qu'on est appelé à faire, les tâches qu'on est appelé à accomplir, on est appelé à le faire avec joie, de bon cœur, comme si on le faisait pour le Seigneur. Donc, on agit, on fait les choses pour le Seigneur. Ça amène une dignité aux actions qu'on fait. Ça amène une perspective différente sur les choses qu'on fait. Chaque activité est noble. Chaque activité honore Dieu et contribue à la société. Donc, les différents travails qu'on peut faire honore Dieu, contribue à la société. Dieu nous appelle à l'excellence. Le texte nous dit de faire ça de bon cœur, comme pour le Seigneur. Si on fait quelque chose pour le Seigneur, le but, c'est de le faire de notre mieux. De faire la chose la plus belle et la mieux réussie possible. Pas tourner les coins ronds, on veut plaire, on veut viser l'excellence pour plaire au Seigneur. Notre motivation doit dépasser de loin le simple devoir. Je ne le fais pas parce que j'en ai besoin, parce qu'on me le demande. Nous vivons sous le regard de Dieu. Dieu nous regarde, Dieu nous voit, puis je fais les choses pour lui. Je fais les choses pour lui, Pierre, je fais les choses de mon mieux. Puis c'est ma volonté de viser l'excellence. C'est ce que le texte nous encourage à faire. Puis le texte nous dit, « Sachant que vous recevrez du Seigneur, l'héritage pour récompense. » Donc, vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Qu'est-ce que ça veut dire, une expression comme ça? Il y a cette idée ici que, est-ce que vous pensez que ça veut dire, je fais les choses, puis même si je trouve ça difficile, Dieu va me récompenser parce que je fais les choses de bon cœur pour le Seigneur? Vous hésitez? Je vais donner la réponse. Ici, le texte, la lettre aux Colossiens, on parle d'un héritage dès le début. Colossiens 1:12, un texte qui est bien connu, ça dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Donc, le texte s'adresse à des chrétiens, la lettre s'adresse à des chrétiens, puis il leur dit « Dites merci à Dieu parce que vous avez été rendus capables, c'est réglé, vous avez part à l'héritage des saints dans la lumière, vous avez un héritage qui est assuré. » Donc, l'encouragement de tout faire de bon cœur, comme pour le Seigneur, c'est pas pour dire, si vous le faites, puis vous le faites assez bien, bien là, vous allez avoir un héritage. Non, l'héritage est assuré. Le Seigneur Jésus a accompli une œuvre parfaite, puis l'héritage qu'on a est déjà assuré. Mais on fait les choses parce qu'on sait qu'on a cet héritage-là, puis on fait des choses avec joie, parce que c'est la tâche que Dieu nous demande de faire en attendant d'avoir enfin cette espérance-là, en attendant d'avoir enfin l'héritage que Dieu a promis. Fait que c'est vraiment cette idée-là qu'il faut comprendre. Même le plus homme des esclaves sur terre est prince du royaume. Il ne travaille pas pour des hommes, il travaille pour le Créateur. Le Seigneur est le Sauveur et lui saura abondamment répandre sa grâce. Donc, on a cette idée que peu importe la tâche que je fais, je travaille pour le Seigneur, pour le Créateur, pour Dieu, puis je sais que lui va répondre puis il va me donner mon héritage parce qu'il m'est assuré. Donc, ça devrait nous motiver à faire les choses. Puis il y a cette idée, c'est intéressant, il y a l'idée à la toute fin, il dit, « Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme ou d'acception de personne. » Il y a cette idée ici que si on... Il y a des gens qui auraient pu dire, tu sais, dans la dynamique à cette époque-là, il y a des gens dans l'Église qui sont esclaves, puis disent, ah, ben là, puis leurs maîtres sont dans l'Église aussi. À Colosse, ils disaient, ben là, j'ai pas besoin de faire ça, parce qu'on est tous des chrétiens, puis c'est pas ça que le texte dit. Vous devez faire votre tâche de votre mieux, puis il n'y a pas de favoritisme. C'est le rôle que Dieu vous demande de faire, vous devez le faire. C'est la position dans laquelle Dieu vous place. Dernier point, maître. Donc, on a l'idée des serviteurs, maintenant les patrons, les gens qui sont en position d'autorité, comment ils doivent se comporter de leur côté. Je l'ai rappelé au début, il n'y avait pas de normes du travail à cette époque-là. Essentiellement, la loi romaine n'imposait presque aucune limite au pouvoir du maître sur son esclave. Donc, le maître, l'esclave lui appartenait, c'est un bien qu'il avait entre ses mains, il pouvait faire ce qu'il voulait de l'esclave, il n'y avait aucune limite. Puis là, Paul leur mentionne, bien là, vous devez agir d'une certaine façon. Vous devez faire ce qui est juste et équitable. Donc, vous devez agir convenablement. Vous devez ce qui est faire, vous ne devez pas profiter de votre position, mais faire la chose qui est juste. Agir, en fait, comme si vous étiez à leur place. Faire qu'est-ce qu'on aimerait qu'on fasse pour vous. C'est un peu l'idée que Paul amène ici. Pourquoi? Parce que vous avez un maître dans le ciel. Rappelez-vous que vous avez le même maître dans le ciel. Puis si vous profitez de votre position, vous n'agissez pas convenablement. Fait que c'est l'idée ici que l'auteur cherche à mentionner. Ça vous va? Ça nous aide à mieux comprendre le texte. Comment qu'on peut appliquer ça? Évidemment, l'application va être plus un résumé du texte qu'on a vu pour nous en 2026. J'ai mentionné l'idée au début, une expression qui revenait souvent, c'était « dans le Seigneur » ou « c'est agréable au Seigneur », cette idée-là qui revient constamment dans le texte qu'on a ce matin. Donc, « dans le Seigneur », toutes mes applications vont commencer avec l'expression « dans le Seigneur ». Premièrement, dans le Seigneur, on trouve un ordre. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est que Dieu a établi un ordre à sa création. Dieu, c'est comme ça qu'il a voulu que les choses soient faites. Puis les relations autorité, c'est selon le plan de Dieu, même dans la personne de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il y avait un ordre. Le Père, le Fils est soumis au Père, c'est des choses qu'on voit. Donc Dieu est un Dieu d'ordre, il nous a créés avec un certain ordre, puis on doit accepter l'ordre que Dieu a établi. Donc Dieu, dans le Seigneur, on trouve un ordre. Dans le Seigneur, on trouve un sens. Pourquoi je dis ça? Le texte nous dit de faire ces choses-là, de, par exemple, aux épouses d'être soumises à leur mari parce que ça plaît au Seigneur. Ça va faire plaisir au Seigneur si on le fait. Les enfants d'obéir à leurs parents parce que ça plaît au Seigneur. C'est agréable dans le Seigneur. Les serviteurs, les employés d'obéir de bien agir, de bien se comporter, d'obéir à leur maître parce que ça plaît au Seigneur. Donc, on se trouve un sens, une motivation à faire ces choses-là. Puis c'est correct de se rappeler ces choses-là parce que dans la théorie, ça va bien, la théorie, les gens vont lire, oui, OK, je comprends, mais des fois, je connais pas la situation de chacun, je connais pas nécessairement les relations. Des fois, c'est difficile pour un mari d'aimer son épouse, c'est difficile pour une épouse de se soumettre à son mari puis de reconnaître son autorité. Des fois, les relations de travail sont pas faciles, des fois, les relations parents-enfants sont pas faciles. Puis là, dit comment Dieu me demande de faire ces choses-là, puis... Il me semble que ça n'a pas d'allure, mais le Seigneur nous demande de respecter l'ordre qu'il a établi parce que ça lui fait plaisir, ça donne un sens, même si des fois on n'est pas dans les situations idéales, les situations faciles ou parfaites, on peut le faire avec joie ou donner un sens à ce que Dieu nous demande. On le fait pas pour régler tous les problèmes, on le fait parce que ça fait plaisir au Seigneur. Donc, c'est vraiment cette motivation-là qui devrait nous animer dans la façon qu'on fait les choses. Dans le Seigneur, on trouve une valeur. J'ai mentionné que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a établi différents rôles. Rôle, par exemple, serviteur-maître. Dieu a établi ces choses-là. Puis, on trouve une valeur dans les tâches qu'on fait. On pourrait dire, mais ça, mes tâches sont... Il me semble que mon rôle n'est pas extraordinaire, il me semble que je pourrais faire mieux, il me semble que j'ai un petit rôle puis je suis déçu. C'est pas ce que le texte nous mentionne, puis c'est pas ce qu'il faut comprendre. Chaque activité noble, chaque activité honore Dieu et contribue à la société. Donc, ce que Dieu vous demande de faire, les tâches que vous avez à faire, Dieu vous, dans sa souveraineté, vous place dans cette situation-là, puis vous demande de le faire de votre mieux. Donc, on doit le faire avec une bonne attitude, avec une bonne motivation. Quatrième application, dans le Seigneur, on trouve un exemple. Il y a des gens qui pourraient dire, mais semble Dieu, Paul aurait dû en profiter pour changer un peu l'ordre des choses, changer les dynamiques, puis il ne l'a pas fait. Dieu a un ordre, puis il nous demande de le respecter. Le commentaire ici est intéressant. Le Nouveau Testament ne s'oppose pas à l'ordre moral d'une société. Le Nouveau Testament change l'ordre moral des cœurs. Et l'Église devient alors le lieu où l'on observe le changement qui doit devenir l'exemple d'une nation. Quand des esclaves sont devenus des responsables d'Église et que des maîtres sont devenus des serviteurs dans l'Église, ce n'est pas l'ordre social qui est changé, mais toute une façon de voir les rapports sociaux. C'est quand même intéressant comme réflexion. On aurait pu dire, Paul aurait dit, ben là, on va changer les choses, tout le monde va être égal, on va libérer les esclaves. C'est pas mentionné comme ça. Il y a des changements qui ont été faits, premièrement, quand les cœurs ont été changés, quand l'ordre moral des cœurs a changé. Quand les cœurs ont été transformés, ben, la façon de se comporter dans une société a été influencée. Puis aujourd'hui, les choses ne sont plus comme elles étaient au temps du Nouveau Testament. Puis c'est à cause, premièrement, que les cœurs ont été changés. Fait que nous, en tant qu'individus, on a à dire, OK, comment mon cœur, Dieu me demande de faire ces choses-là, je le fais de bon cœur. Je sers le Seigneur parce que c'est ce qu'il me demande de faire. Puis dans le Seigneur, on trouve une espérance. Il y a une motivation, un héritage qui est certain. On peut avoir cet héritage-là qui nous est assuré. On a été rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, ce que le texte que j'ai mentionné dans Colossiens 1, verset 12. Donc, dans notre vie de tous les jours, on fait les choses sachant qu'on a une espérance. On fait les choses en attendant d'avoir cette espérance-là, cet héritage-là qui nous est promis. Je termine en relisant Colossiens 3, 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Je vais terminer par un mot de prière. Notre Dieu, merci pour ce texte, un texte très pratique qui nous demande tu nous expliques comment fonctionner dans nos relations, nos relations conjugales, relations familiales, les relations de travail. On peut tous se retrouver quelque part dans ce texte-là, Seigneur. Puis notre prière, c'est qu'on ait cette attitude de faire les choses de bon cœur pour toi, pour te plaire. Puis, sachant que tu le vois, que tu nous observes, sachant que tu ne l'oublies pas, même si des fois ça peut nous paraître difficile ou compliqué, on peut s'appuyer sur toi, puis on peut le faire avec joie, parce que c'est ce que tu nous demandes. Seigneur, bénis chacun ici, permet que chacun bénisse la journée de chacun, la semaine, Seigneur, puis on te remercie pour ce temps qu'on a passé dans ta parole. On prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.